C'était une promesse de campagne, elle est sur le point d'être réalisée à Paris. Depuis le 11 avril dernier, les habitants ont la possibilité de donner leur avis sur la mise en place d'une zone à trafic limité. Cette zone, qui comprend les 4 premiers arrondissements de la capitale, a pour objectif d'empêcher le transit de véhicules motorisés afin d'améliorer la qualité de l'air pour ceux qui y résident et d'apaiser l'espace public dans ces quartiers de l'hypercentre. Si beaucoup d'habitants sont favorables au projet, les oppositions sont également légion, comme toutes les mesures de restriction de circulation ces dernières années, celle-ci divise. Elle pose question aussi sur sa mise en place, sur ses réels effets quant à l'amélioration de la qualité de l'air. Vous êtes déjà nombreux à avoir donné votre avis et nous relayerons justement vos interrogations durant la prochaine demi-heure auprès de nos invités en plateau. Sont présents justement pour en débattre David Belliard, maire adjoint à Paris en charge de la transformation de l'espace public, des transports et des mobilités. Aurélien Véron, conseiller de Paris Centre, membre du principal groupe d'opposition Changer Paris. Et Aurore Collin, chercheuse collectivité et infrastructures de transport à l'Institut de l'économie pour le climat. Zone à trafic limité, une réelle solution à Paris. Île-de-France Politique, c'est parti. Bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce débat très concernant pour les Parisiens, mais pas seulement, pour les Franciliens aussi. Nous sommes ici pour débattre du fond et rien que du fond, et surtout pour répondre aux interrogations des Parisiens et des Franciliens, dont je vous relayerai d'ailleurs certaines interrogations. David Belliard, la zone à trafic limité, on parlait d'une mise en place juste après les Jeux. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Oui, c'est toujours le cas, c'est l'objectif. On est en train de terminer une période de concertation qui est une période de concertation d'ailleurs assez longue, hein, puisqu'il y a effectivement l'enquête publique. On a jusqu'au 13 mai d'ailleurs. Celles et ceux qui souhaitent y participer, qu'ils habitent ou qu'elles habitent ou pas à Paris Centre, peuvent le faire, contribuer, notamment en ligne. Mais ça fait aussi suite une série de concertations, de dialogues que nous avons entamés dès le début du mandat, de façon effectivement à faire de la pédagogie, aussi à affiner le projet. Il reste encore à affiner, on va peut-être sans doute en parler sur un certain nombre de points, et pour enfin permettre effectivement de mettre en place cette zone dont je vais quand même rappeler simplement la philosophie globale. L'idée, c'est effectivement d'empêcher celles et ceux qui n'ont rien à faire à Paris Centre, qui ne font que traverser cette zone, et bien de passer par d'autres voies ou d'utiliser d'autres moyens de transport, mais par contre de permettre aux résidents, aux résidentes ou à celles et ceux qui travaillent par exemple à Paris Centre, et bien de pouvoir continuer à y circuler en voiture.
Certains arrondissements sont sortis du dispositif, Aurélien Véron. Est-ce que pour vous, c'est une chose positive? Et au final, on va se concentrer sur l'hypercentre. Donc, il y a pas mal de villes en France, je pense à Avignon notamment, où le trafic est interdit dans l'hypercentre. Est-ce que ce n'est pas la suite logique des événements?
D'abord, la réduction du trafic, c'est plutôt une bonne chose en soi. En revanche, le groupe Changer Paris s'oppose à cette version de la zone de trafic limité pour trois raisons essentielles. La première, c'est qu'il n'est pas prêt. En fait, mardi soir, nous avons une réunion. On ne sait pas quand la date précise va lancer la zone de trafic limité. On ne connaît pas le périmètre parce qu'il y a toujours un désaccord qui subsiste entre la préfecture de police et la mairie de Paris. Et puis le dispositif est absolument inconnu. C'est-à-dire que depuis trois ans que l'annonce a été faite de cette zone de trafic limité, j'ai l'impression que rien n'a avancé. Est-ce que ça sera des contrôles a priori, avec un QR code sur une déclaration d'intention préalable? Est-ce que c'est une déclaration sur justificatif, une confirmation sur justificatif? Qui, comment? Paris Centre, par exemple, c'est 20 policiers au maximum au pic de la journée. 20 policiers qui doivent couvrir 100 000 habitants et 200 000 salariés et touristes pour gérer les agressions, les incivilités, les infractions à la circulation. Ces 20 policiers vont devoir gérer 300 000 véhicules jour pour contrôler comment et où et quoi. La deuxième raison, c'est que en fait, dans l'étude d'impact qui était publiée, l'impact écologique est quasi nul. C'est-à-dire que,
on va y revenir très
qu'il soit acoustique ou écologique, il est quasi nul. Et la troisième chose dans ce projet, c'est qu'en vitrifiant, en isolant cette enclave parisienne coupée du reste de Paris sur des règles extrêmement complexes, le risque, c'est d'avoir un Paris centre ultra touristique au détriment des habitants. Et c'est déjà ce qu'on est en train de vivre et ça va amplifier ce mouvement.
J'ai une question pour vous, Aurore Collin. Je donne juste réponse à David Belliard et ensuite je vous donne la parole. David Belliard, votre réponse justement sur simplement sur la mise en place, parce que les reports de circulation, la pollution,
on va y revenir, j'imagine. D'abord parce que c'est un projet ambitieux. C'est la première fois qu'on a effectivement une zone à trafic limité qui est de cette ampleur et que nous souhaitons mettre en place en France. On a effectivement un certain nombre encore d'interrogations et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle
on
nous concertons.
On est qu'à 5 mois de la mise en place.
Non, mais il y a plein de de solutions. Il y a plein déjà d'éléments qui sont apportés. Par exemple, la liste des ayants droit, c'est-à-dire celles et ceux qui pourront, par exemple, circuler dans cette zone sans restriction. Par exemple, les personnes à mobilité réduite, par exemple, les taxis, par exemple, les commerçants, les professionnels, celles et ceux, par exemple, qui vont faire leur courses dans cette zone, ou évidemment les résidents, les résidentes. Voyons, en fait, on apporte un certain nombre d'éléments. Bien sûr, il reste encore des choses sur la table.
Mais comment contrôler les autres ?
Pardon, on va revenir sans doute sur les questions de contrôle, mais je voudrais juste réagir quand même face à ce qui vient d'être dit. Vous savez, on est toujours face à une sorte de critique absolue lorsqu'on touche la voiture. Lorsqu'on agit et qu'on agit vite et fort, par exemple sur la piétonnisation des quais, eh bien votre groupe s'est opposé en nous disant qu'on était autoritaire. Là, on agit en mettant en place une concertation qui est sans doute la plus importante qui ait jamais existé pour ce type de processus. Et là, vous nous expliquez que, en fait, nous ne sommes pas prêts. Vous voyez, il n'y a jamais... Face à vous, franchement,
trois ans qu'on en discute.
Et bien alors, vous devriez applaudir cette concertation en profondeur.
Comment est-ce qu'on va contrôler les personnes qui n'auront pas le droit de transiter par
notre objectif est de faire un contrôle qui est un contrôle simple. D'abord, le premier des contrôles et la première des restrictions, c'est le plan de circulation, auquel d'ailleurs vous vous opposez. Le plan de circulation, c'est pour empêcher les automobilistes de pouvoir traverser la zone.
Ça, donc des routes qui sont dans l'autre sens, c'est-à-dire des routes qui sortent de la zone.
Non, votre plan de circulation... Le plan de circulation, c'est par exemple, vous ne pourrez plus traverser, comme vous faisiez auparavant, la zone.
Et d'ailleurs,
mais c'est déjà le cas.
Au sein de Paris-Centre. Les riverains ne peuvent plus traverser leur propre quartier.
C'est déjà le cas. Mais si. Mais bien sûr, non. Vous pouvez. Non.
Il y a des archives, c'est un drame, c'est une discussion permanente.
Allez jusqu'au bout. C'est-à-dire, effectivement, nous restreignons l'usage de l'automobile. C'est vrai. Et ça, c'est un choix parfaitement assumé. Nous restreignons celles et ceux qui, effectivement, veulent utiliser leur voiture. Par contre, nous favorisons celles et ceux qui veulent utiliser d'autres types de transports. Par exemple, le vélo, la marche à pied, les transports en commun. On est quand même dans la zone qui est la mieux desservie en transport en commun, sans doute. Je ne sais pas si c'est exactement du monde, mais en tout cas d'Europe. Vous voyez, on a une station de métro tous les 350 mètres dans la zone où vous êtes élu. Ça n'existe nulle part ailleurs.
Orcolin, finalement, ce que je disais tout à l'heure par rapport au centre-ville, d'autres villes françaises qui sont piétonnisées, qui sont donc interdites à la circulation automobile, est-ce que ça s'est mis en place de façon, on va dire... progressive, ou est-ce que finalement ça s'est mis en place aussi rapidement ?
Initiative, en effet, c'est tout ce qui touche en fait aux déplacements et aux habitudes des personnes, ça met du temps à mettre en place parce qu'il faut aussi derrière des travaux, des concertations, etc., pour que les mesures soient mieux acceptées par la population. Après, ce que j'entends aussi sur le plateau, et M. Véron a commencé par ça, il y a un consensus sur la volonté et la nécessité de réduire la place de la voiture en ville, de réduire un peu l'usage de la voiture individuelle en ville, notamment la voiture polluante. Et ça, c'est un consensus que je vois un peu politique et scientifique, donc il faut quand même le noter. Il y a vraiment ce besoin pour la transition écologique et la décarbonation de réduire cette place de la voiture polluante en ville. Évidemment, il y a différentes mesures pour cela, et le report modal, la réduction des zones à faible émission, voire les zones aussi à faible trafic, sont un des leviers qui peut être mobilisable. Après, il y a des points de vigilance aussi sur lesquels on pourra revenir. Je pense que c'est important, vous l'avez dit, aussi d'associer ces mesures-là avec des alternatives qui soient accessibles, sécurisantes, qui soient aussi en quantité et de qualité.
C'est le cas aujourd'hui.
Et bien sûr, les aménagements cyclables ou les transports collectifs, il y a encore cette question-là. Paris, évidemment, en avance par rapport à d'autres villes. Il faut saluer l'investissement conséquent qu'il y a eu dans les pistes cyclables, mais aussi dans les transports collectifs et qui continue d'avoir. Après, c'est vrai qu'en termes d'infrastructure, il y a encore une qualité aussi qu'il faut améliorer, des investissements conséquents à faire, pas seulement en infrastructure, mais aussi en qualité de service. Je pense au transport collectif, il y a aussi toute la qualité de service qui est là. C'est vrai qu'on est bien doté à Paris, mais en termes de ponctualité, régularité, d'accessibilité du métro, des transports collectifs, du bus, c'est aussi une question qui va demander des financements à sanctuariser et des efforts à faire. Donc il faut accompagner cette question.
L'angle choisi par David Béliard, et je comprends cette logique, c'est votre logique. C'est de réduire la place de la voiture, certainement pas d'améliorer les conditions écologiques à Paris. Parce qu'encore une fois, l'autorité environnementale, dans le rapport d'étude, dit l'empreinte, les concentrations en dioxyde d'azote resteront les mêmes, dans le même ordre de grandeur, que le projet soit réalisé ou non. Pareil pour le carbone, bilan neutre, pareil pour l'impact acoustique. En revanche, les délais de trajet pour aller de la gare de Lyon à la gare Saint-Lazare, de la gare Montparnasse à République, c'est plus 30% de temps. Donc, et la circulation sur les axes périphériques dans le 11e, le 12e, le 8e, c'est 20 à 40% de trafic en plus, avec des embouteillages monstrueux, un engorgement terrible, et donc de la pollution qui va se, se déplacer vers ces quartiers. Même le périphérique est mentionné, avec 5% de hausse du trafic sur le périphérique. 3%. Donc l'idée, c'est pas de réduire, c'est pas de réduire la pollution. La pollution sera la même, c'est d'emmerder les Parisiens. Et au final, c'est un projet qui va compliquer encore plus la vie des Parisiens, qui sont déjà extrêmement stressés, qui subissent au quotidien, qu'ils soient dans les bus, qu'ils soient dans les bouchons, qu'ils soient avec que soient les livreurs, les artisans, un enfer. Et là, on aggrave l'enfer sans aucune amélioration environnementale.
J'ai une question que j'ai sélectionnée parmi les avis qui sont dans la consultation publique, justement sur ces reports de circulation. Ce que disait cet habitant, c'est cette mesure, elle est intéressante, elle devrait permettre d'améliorer la qualité de vie dans le centre de Paris. Par contre, les habitants des quartiers limitrophes, eux, seront défavorisés car ils ne seront plus en mesure de passer dans le centre pour se rendre chez eux. Contrairement à ceux de ces quartiers, ils seront donc obligés de réaliser des kilomètres en plus avec des bouchons en plus. Et le projet devrait être amendé pour permettre aux habitants de ces quartiers limitrophes de passer également par le centre. Est-ce que vous comprenez, par exemple, ces personnes qui habitent dans le sud 10e, qui habitent vers les grands boulevards?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est un sujet que nous essayons de traiter avec chacune des équipes locales. C'est-à-dire que nous faisons des ajustements, des modifications, des plans de circulation pour permettre de limiter un certain nombre de reports suite à la mise en place de cette zone à trafic limité. Mais quand même, je ne peux pas entendre, je ne peux pas laisser parler et je ne peux pas laisser dire ça sur le plateau. Soit vous nous dites qu'il n'y a pas d'impact dans cette zone à trafic limité et que du coup, le truc est neutre. Mais vous ne pouvez pas dire à la fois qu'il n'y a pas d'impact et de l'autre côté qu'il y a des reports, et notamment des reports de pollution.
Un déplacement de pollution.
Mais non, vous nous expliquez qu'il n'y a pas d'amélioration de la qualité de l'air dans la zone voulue.
Je parle de Paris.
Mais là, j'ai un désaccord avec vous. En fait, ce que nous faisons et ce que nous cherchons à faire, d'abord, la première chose, c'est ce que nous cherchons à faire. C'est effectivement à limiter, à avoir un outil pour limiter le trafic dans cette zone. Ça veut dire quoi, limiter le trafic? Ça veut dire effectivement une amélioration acoustique, ça veut dire une baisse des nuisances sonores, et ça veut dire une amélioration, certes légère, mais quand même une amélioration de la qualité de l'air. Et la deuxième chose, c'est que cette zone à trafic limité, il faut la considérer dans un ensemble. Cet ensemble, c'est la politique que nous menons. Cette politique que nous menons, c'est effectivement de réduire la place de la voiture partout. C'est les modifications de plans de circulation dans les quartiers. Ça s'appelle le dispositif Embellir votre quartier. Ce sont les rues aux enfants. Nous en avons créé 200, nous allons en créer 300. Ce sont effectivement le plan vélo. Il reste encore du travail à faire, mais c'est quand même 180 km de pistes cyclables qui vont être faites. Et chaque fois que nous faisons des pistes cyclables, nous réduisons la place de la voiture. Donc, si vous voulez, simplement pour terminer là-dessus, si vous voulez, cette zone à trafic limité, elle va accélérer la réduction de la baisse de la voiture, de la baisse de l'usage de la voiture à Paris centre, mais aussi à Paris dans son intégralité, parce que elle répond à une logique d'ensemble.
Alors vous devriez lire l'étude d'impact est extrêmement claire sur ces enjeux.
On l'a lu.
Et l'étude d'impact est claire. Il n'y a pas d'amélioration des émissions à l'échelle de Paris.
Des circulations, il semblerait que certains endroits aux abords de la zone à trafic limité, comme les quais Anatole France ou Saint-Bernard, soient donc avec ces reports de circulation.
Il y a des reports de circulation, bien sûr.
À l'intérieur.
Bien sûr, mais il faut regarder la démotorisation, le fait qu'on utilise de moins en moins sa voiture à Paris, entre -3 et -5% par an, fait qu'effectivement, lorsqu'on fait des modifications, on a des reports, mais ces reports sont absorbés progressivement.
Pour le moment, ce ne sont que des projections. Est-ce que quand on regarde un petit peu dans le passé, quand on a mis en place ce genre de restrictions de circulation, Aurore Collin, ça a eu un réel effet sur la baisse de l'utilisation de la voiture premièrement et peut-être la baisse des émissions?
Je rejoins un petit peu M. Bellard, c'est-à-dire que sur ces mesures-là, si on reste à l'échelle de la mesure, c'est compliqué de savoir vraiment l'impact. Ça s'inscrit dans un système. Mais le transport en ville s'inscrit dans un système en général. Donc la mesure en soi, scientifiquement, en effet, sur les émissions, en fait, si on la regarde telle quelle, il faut prendre un petit peu de recul pour regarder un peu le système transport qui est à côté et qui la dynamique qui est aussi dans la ville. Donc le déploiement en effet transport collectif, du vélo, de la piétonnisation, et c'est un ensemble. Du coup sur une mesure comme ça individuelle, je pense qu'il y a il y a un effet peut-être même qui peut être négatif sur l'environnement, finalement les émissions, comme le pointe Monsieur Véron. Mais quand on regarde aussi on va dire la dynamique dans laquelle ça ouvre sur la piétonnisation, sur les modes doux, changer aussi les comportements, habitudes, ça prend du temps. Il faut des mesures un peu expérimentales, pionnières, pour ensuite en fait avoir aussi un système ville très différent en termes de déplacement. Mmh. Et ça, sur d'autres villes, bon, moi je connais un petit peu moins bien, mais par exemple à Bordeaux, il y a une grande mesure de bétonisation depuis les années 2000 sous en plus Alain Juppé, qui a aussi porté ses fruits. Et finalement, on a aujourd'hui Sainte-Catherine, la rue, qui est complètement piétonne. On a des dynamiques de mode doux qui sont importants. Et c'est vrai, au début, il y a eu des contestations très fortes des restaurateurs, des commerçants, etc. Donc forcément, mais on le voit dans la transition écologique en général, hein, tout ce qui va être changement de comportement, aller chercher des habitudes différentes, soulève des contestations pour finalement après avoir des bénéfices. Mais c'est sûr qu'à court terme, sur une mesure, c'est compliqué de les voir forcément directement.
Vous étiez d'accord au départ, Aurélien Véran, pour dire que finalement, il y a une espèce de consensus pour dire que finalement, les voitures polluent et qu'on va réduire un petit peu le trafic automobile. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas aussi changer, c'est ça, les mentalités, les pratiques.
Les Parisiens, aucun Parisien et aucun d'ailleurs Français ni personne n'a envie d'avoir une autoroute en bas de chez soi. Mmh. Une ville, c'est un marché de l'emploi et il faut de la mobilité. Les transports en commun sont très importants. Maintenant, l'organisation des nœuds de trafic à Paris, les places comme la place de la République, place de la Bastille, deviennent des nœuds complètement obstrués. Et la circulation pour des gens qui en ont besoin, par exemple des PMR qui ont besoin de leur voiture,
les personnes à mobilité réduite,
aujourd'hui, ont doublé leur temps de trajet pour aller au travail, pour se déplacer. Et donc les répercussions de ce plan de circulation qui vise à décourager la voiture, ça pénalise les artisans qui parfois refusent de venir à Paris-Centre, ça pénalise des personnes âgées qui ne peuvent pas prendre le métro parce que ce n'est pas possible, il n'y a pas de rampe d'accès pour elles, ça pénalise énormément le monde. Et donc l'activité économique, l'activité sociale est pénalisée. La lutte contre la voiture par dogmatisme, ça ne mène nulle part. Donc il faut arriver à une réduction intelligente, par exemple en aidant la logistique avec l'intelligence artificielle sur derniers kilomètres, en faisant des partenariats avec des parkings circulaires autour de Paris-Centre et autour de Paris pour que les gens qui arrivent de grandes banlieues ou de province se garent à la périphérie, par exemple, de Paris-Centre. Mmh. Il y a plusieurs parkings, donc il faut leur faciliter l'accès. Bref, il y a plein de mesures intelligentes à prendre, mais en compliquant, et David Belliard a évoqué les plans en marguerite, c'est-à-dire que quand vous habitez dans le Marais, par exemple, si vous voulez rentrer chez vous, si vous faites 50 mètres de plus que la rue qui s'inverse, vous devez faire le tour par la République avec des bouchons infernaux. Et au lieu d'y arriver en 5 minutes, vous mettez 45 minutes. Mmh. C'est des histoires réelles que j'entends dans les conseils de quartier, auprès des associations de riverains. Les commerçants, boulangers, bouchers se plaignent de cette complication pour circuler dans leur propre quartier. À partir du moment où une ZTL va isoler Paris-Centre, il faudrait au moins déboucler ces marguerites pour que les riverains qui, eux, ont ce privilège dans cette enclave de circuler chez eux, puissent enfin rentrer chez eux sans faire tout le détour. Malheureusement, ils veulent accumuler les deux et donc on a une strate de complications. Et en fait, tout ça dissimule non pas une lutte pour faciliter la vie des gens et favoriser la vie des Parisiens, mais pour compliquer la vie de ceux qui utilisent la voiture. Et ce dogmatisme anti-voiture, il nous mène à une impasse dans la vie au quotidien de beaucoup de Parisiens.
Pourquoi ne pas décomplexifier justement le plan de circulation à l'intérieur si justement les Franciliens qui voudront transiter via la zone à trafic limité seront beaucoup moins qu'avant et même ils seront interdits
de faire. Du coup, il n'y a plus de zone à trafic limité. Le concept de zone à trafic limité, c'est
non,
justement...
le concept de zone
justement,
à trafic limité, c'est d'empêcher les,
justement
c'est
d'empêcher ceux qui les transitent trafics,
simplement.
Exactement, le trafic de transit. En
fait,
nous n'empêchons personne. Nous n'empêchons personne. D'abord, M. Véran se fait effectivement le porte-parole de celles et ceux qui veulent utiliser et continuer à utiliser leur voiture. Alors, il faut savoir quand même qu'ils sont très minoritaires à Paris, et notamment à Paris-Centre. C'est entre 20 et 30% de la population qui possède une voiture et très peu finalement qui l'utilisent de manière quotidienne.
C'est une bonne chose.
Ce sont des gens qui l'utilisent souvent de manière très ponctuelle. Ça veut dire que, je le dis parce qu'on a souvent l'exemple que dire oui mais alors là on pouvait le faire en 30 secondes et puis là on va être obligé de le faire en 15 minutes. Ça concerne une minorité, une extrême,
un Parisien
extrême
sur 3.
extrême minorité des déplacements. Parce que la majorité des déplacements qui sont faits à Paris-Centre, ils se font aujourd'hui et c'est fort heureux en transport en commun, en vélo et avec la marche à pied. Et d'ailleurs, cette politique qui est une politique en fait très écologique puisque, et vous, j'espère que vous le noterez avec moi, c'est que nous avons une amélioration de la qualité de l'air progressivement dans Paris et au sens global, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont toutes les études, donc ça veut dire quand même que ça fonctionne. Le bruit par exemple a diminué à Paris et continue à diminuer parce que les principales nuisances sonores c'est encore le trafic routier. Ça veut dire que cette politique, elle porte ses fruits, et vous l'avez dit, c'est un système, on ne le voit pas tout de suite, c'est vrai, ça pose des effets, ce qu'on appelle des effets de bord. D'avoir une zone à trafic limité, ça pose un certain nombre d'effets de bord. On essaye de les corriger parce que c'est important de pouvoir répondre notamment à l'inquiétude des personnes qui habitent à côté, notamment sur les quartiers limitrophes. Mais cette politique-là, elle fonctionne. Elle fonctionne depuis 20 ans, nous l'avons accélérée depuis 2020 et aujourd'hui, nous avons les fruits de la politique que nous avons menée, notamment en termes d'usage du vélo, de réduction de la nuisance sonore et d'amélioration de la qualité de l'air.
Je voudrais qu'on revienne sur cette question des contrôles, parce que vous ne m'avez pas répondu, David Béliard. J'ai une question, justement, un avis qui a été laissé sur cette enquête publique. Jean-Marc qui nous dit « S'il est permis à un conducteur motorisé de venir stationner dans la zone à trafic limité parce qu'il est client d'un magasin de la zone ou simplement visiteur d'un musée de la zone, tous les conducteurs souhaitant traverser la zone sans s'arrêter pourront simplement prétexter qu'ils ont un achat à faire dans cette zone ou qu'ils ont l'intention de visiter un musée de cette zone si un agent de police veut les contrôler, non ?
Oui, c'est les zones encore, c'est ce qui est encore en discussion. C'est de savoir comment, effectivement, nous allons contrôler, notamment parce que nous souhaitons, en premier lieu, contrôler avec des agents qui sont des agents sur place. Pourquoi nous faisons ça ? Juste quand même, parce que la France a pris beaucoup de retard. C'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir, par exemple, de radars qui permettent de flasher les plaques d'immatriculation, comme ça se fait par exemple dans les zones à trafic limité.
Ou des poteaux qui se lèvent comme à Saint-Denis, alors ça, par exemple.
Ça, M. Véron, qui est élu dans le centre de Paris, sait que par exemple à Montorgueil, c'est très compliqué. Donc ça, c'est vrai, effectivement, c'est très complexe à mettre en place.
Cher.
Notamment à Paris, c'est très cher. Et puis surtout, ça tombe souvent en panne. Donc on essaye plutôt d'avoir des principes qui sont des principes simples. Vous savez, il y a aussi quelque chose quand même, d'abord, qu'on appelle le plan de circulation, je le redis, parce que, en fait, les gens qui veulent traverser simplement la zone, eh bien, ça va être plus complexe pour eux. Et d'ailleurs, une grande partie du trafic de transit est liée à l'usage, par exemple, de Google Maps ou de Waze, qui sont en fait des plateformes qui sont des aides à la conduite. Eh bien, ces plateformes-là, elles vont indiquer à leurs usagers les nouveaux plans de circulation et le fait qu'il ne faut plus venir dans cette zone lorsque vous souhaitez simplement la traverser.
Aurore Collin, est-ce que souvent les mesures comme celle-ci, elles sont respectées par les automobilistes ? Est-ce que ça marche ?
Ces mesures-là ? Alors sur les exemples...
Ces mesures de restriction de circulation.
En général, la piétonnisation des villes et les zones aussi de limitation des trafics, en général, il y a plutôt des bonnes expériences, des bons retours. Après, je voudrais revenir sur un point peut-être qui concerne aussi le respect de ces mesures-là. Qui a été évoqué, c'est les questions des personnes vulnérables aussi, l'accès en fait à la ville, le droit à déplacement et des mesures de restriction, d'interdiction en fait, qui sont des mesures assez fortes, peuvent aussi en fait toucher les personnes vulnérables, donc les personnes âgées, handicapées, mais aussi les personnes modestes qui travaillent et n'ont pas le choix que de traverser la ville en voiture ou même d'aller en voiture à leur travail. Je pense à ceux qui travaillent dans les travaux notamment. Donc ça, c'est un point très important. La transition juste et ces mesures-là ne doivent pas aggraver les difficultés que rencontrent ces personnes déjà au quotidien. Et je pense que c'est aussi un point important pour les Parisiens. Des mesures qui ne doivent pas aggraver les difficultés déjà existantes pour les personnes plus vulnérables, en général pour les personnes aussi qui prennent la voiture, etc., dans le milieu de Paris. Ça, c'est une condition pour que la mesure marche et soit respectée.
Oui, une inquiétude qui était soulevée par la préfecture de police au dernier Conseil de Paris, c'est qu'en fait, ne croyant pas au dispositif, qui n'est pas encore établi d'ailleurs, et ne voyant pas comment des policiers municipaux vont au maximum à Paris-Centre pour couvrir 5 km², 100 000 habitants et 200 000 visiteurs. Comment ces 20 policiers vont pouvoir vérifier 300 000 véhicules ? Et donc la préfecture de police dit, si vous mettez en place des règles qui ne sont pas applicables et qui ne sont pas suivies, comme par exemple rue de Rivoli aujourd'hui, où tout le monde prend la rue de Rivoli alors qu'elles sont interdites aux non-riverains et aux non-livreurs et aux non-commerçants, bah, tout le monde s'engouffre dedans.
Et des caméras de surveillance quand même.
Oui, mais comme beaucoup de gens ont le droit d'y aller, la complexité de cette zone de trafic limité, c'est que c'est une innovation. Les NTL traditionnels, soit c'est binaire.
Déjà utilisé par plusieurs centaines de villes quand même.
Vous êtes riverain, vous n'êtes pas riverain, c'est binaire. Vous avez un macaron, vous n'êtes pas le macaron, si vous n'êtes pas le macaron, c'est dehors. Là, la destination est possible. C'est très compliqué, c'est une NTL très innovante et qui est inapplicable. Et donc, la préfecture de police dit, vous allez créer une règle de circulation qui ne sera pas respectée et vous allez contribuer à affaiblir un petit peu plus l'autorité du code de la route qui est déjà violée en permanence à Paris par certains automobilistes, camions, livreurs qui prennent des raccourcis parce que c'est insupportable, par des cyclistes qui roulent sur les pieds des piétons et des enfants et des vieilles dames avec beaucoup d'accidents. Donc ce code de la route, si on veut le faire respecter, on ne peut pas balancer des règles qui ne seront ensuite pas respectées.
David Béliard.
Alors d'abord, je suis heureux de vous entendre dire ça. Maintenant que vous avez une membre éminente de votre groupe au gouvernement, j'espère qu'elle portera une modification du code de la route, même si c'est pas complètement
le champ. La culture,
ouais. J'imagine que quand même, elle a quelques idées sur les transports et en particulier les transports à Paris.
Merci.
Oui, mais c'est le fond. Le fond, c'est effectivement comment on fait respecter un certain nombre de règles, et notamment sur cette zone à trafic limité. D'abord, c'est pas complètement une innovation. Il y a plusieurs centaines de villes qui utilisent cette zone à trafic limité dans des cadre effectivement législatif qui sont un peu différents. Mais par exemple, les villes françaises, elles ont les mêmes codes de la route que Paris. Donc, et ça fonctionne. Et donc, du coup, elles arrivent quand même à faire respecter leur zone à trafic
oui,
limité.
La deuxième chose, distinguer les personnes qui seront autorisées de celles qui ne le seront pas.
Toute la complexité du processus.
C'est là où, en fait, on a une discussion. Et c'est, je pense, un des points de la consultation que nous avons mis en place. Parce que, en fait, sur les remontées que nous avons sur cette consultation, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'éléments qui reviennent sur cette question de contrôle. Donc, on va prendre un certain nombre de décisions suite à cette enquête publique. Donc, on verra. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait d'abord un dispositif simple qui permettent à tout un chacun eh bien, de pouvoir faire ce qu'il a à faire lorsqu'il doit aller à Paris-Centre. La deuxième chose, c'est que nous ferons beaucoup de pédagogie. La troisième chose, c'est encore une fois le plan de circulation. Et puis, eh bien, moi, je crois quand même à l'intelligence collective parce que ce qu'on voit, c'est lorsqu'on met en place des dispositifs, même lorsque ces dispositifs sont imparfaits, je pense notamment, par exemple, aux zones à faible émission, encore un acronyme, mais qui oblige, en tout cas, qui sort des villes les voitures les plus polluantes, eh bien, on voit que les gens, lorsqu'on en parle, lorsqu'on en débat comme aujourd'hui sur ce plateau, eh bien, ils anticipent et que, par exemple, eh bien, on voit le nombre de voitures dites propres ou plus propres eh bien, augmenter sur la métropole du Grand Paris. Donc, il y a aussi une vocation qui est une vocation pédagogique de changement de comportement à ce type
ça,
de zone.
Ça coûte combien de mettre en place une zone à trafic limité comme celle-ci ?
Ça sera la signalétique, c'est assez léger en fait en termes de dispositif.
Donc, je pense qu'on sera plutôt aux alentours.
Oui, voilà, il y aura des panneaux, une signalétique, il y aura un certain nombre d'éléments, en tout cas visuels, pour expliquer comment ça fonctionne. Et puis un nouveau plan, enfin en tout cas des aménagements en termes de plan de circulation dans la zone, mais aussi dans les arrondissements limitrophes. C'est en gros, c'est quoi ? C'est 8 millions d'euros. Quelque chose comme ça.
Oui.
Alors ça peut paraître beaucoup, mais au regard d'une ville comme Paris, c'est très très peu.
Et quelles seront les contraventions alors ? Quel sera le niveau de la contravention pour des contrevenants ?
Mais vous savez, c'est 135 euros, c'est le code de la route. Lorsqu'on contrevient aux règles du code de la route, donc c'est l'amende en tout cas classique. Mais encore une fois, je vois quand même l'idée. Oui, pardon. L'idée, je vois bien l'idée n'est pas quand même de sanctionner pour sanctionner. L'idée et l'objectif de cette zone, c'est d'amener à changer de comportement, de contribuer au changement de comportement, et notamment en termes de mobilité, accélérer ce qu'on appelle la démotorisation dans une ville comme Paris, où nous avons des alternatives extrêmement importantes. Eh bien, oui, on peut continuer l'effort pour utiliser moins sa voiture et permettre à celles et ceux qui en ont vraiment besoin de mieux l'utiliser, et notamment les personnes en situation de handicap.
Dans les politiques publiques récentes, c'est aussi un poste de dépense assez important, généralement, dans les finances des collectivités.
Sur le transport, évidemment.
Sur ces restrictions de circulation.
Là, vous l'avez dit, c'est vrai qu'en fait, par rapport à la signalétique, par rapport au coût de cette zone, on est vraiment minime par rapport au coût des transports collectifs, même des aménagements cyclables et des infrastructures qui sont... En France, enfin, en tout cas à Paris, le budget des France Mobilité, c'est quasiment 15 milliards d'euros en 2023. Donc, quand on parle de quelques centaines de millions d'euros, on est quand même bien en dessous. Donc, oui, c'est un poste de dépenses très important qui va en plus augmenter avec la transition écologique énergétique, puisqu'on veut avoir port modal, donc plus de transports collectifs, plus de vélos, plus de pistes cyclables. Et là, enfin, je reviens, c'est en plus, moi, dans mon institut, on est vraiment spécialiste des financements. C'est vraiment un point de vigilance, on est assez inquiet. Et je le redis aussi à Paris, Île-de-France Mobilité connaît une impasse financière, arrive en tout cas à des dépenses d'exploitation qui vont être très, très élevées les prochaines années. On a un Grand Paris Express qui va se développer aussi, donc qui dit aussi des dépenses d'exploitation plus élevées et des sources de financement qui ne sont pas non plus inépuisables. Donc il y a une vraie dynamique, mais il y a aussi une nécessité de penser un petit peu le financement à Paris, repenser aussi le financement. Et là, ce n'est pas que la ville de Paris qui est impliquée, c'est les régions, les départements, voire même l'État qui pourrait aussi, qui est déjà venu en tout cas un soutien au financement pour les transports collectifs parisiens. Donc ça, c'est un vrai point de vigilance. On travaille, on sait que les investissements vont être importants et les dépenses de fonctionnement aussi à l'avenir.
Merci beaucoup à tous les trois. On est arrivé au bout de cette émission qui passe toujours trop vite. Merci d'avoir participé à ce débat donc, sur cette zone à trafic limité. Merci à vous de nous avoir suivis. Et notez bien donc, que vous pouvez participer toujours à cette enquête publique sur cette zone à trafic limité. Elle est toujours en cours. Vous allez pouvoir la retrouver sur Internet. On vous a mis un QR code pour vous faciliter la vie. Vous le savez, vous ouvrez votre téléphone sur l'appareil photo, vous flashez l'écran et vous arrivez donc directement sur cette enquête publique. Sur la ZTL. Vous avez donc possibilité de consulter des documents publics et de donner votre avis jusqu'au 13 mai à 17h. Voilà, vous avez toutes les informations et l'info se poursuit sur BFM Paris Île-de-France.